voix nue. Toute cette semaine, Géraldine Mosna-Savoie rencontre Étienne Balibar. Ce soir, l'homme des contradictions.
Bonsoir Étienne Balibar.
Bonsoir Géraldine.
Hier, alors que nous parlions de votre relation intellectuelle avec Louis Althusser, vous avez dit que l'on pensait toujours avec quelqu'un. On peut dire aussi, dans votre cas, que vous pensez toujours avec les conjonctures. Qu'est-ce que vous entendez par là, par conjoncture, et comment vous avez essayé de tenter de lier écriture et conjoncture dans votre travail, Étienne Balibar ?
Conjoncture, c'est un mot, évidemment, qui fait couple avec d'autres structures, histoires, politiques. Bon, disons que c'est quelque part dans l'utilisation que j'en fais entre l'idée de situation, où Sartre, dont nous avons parlé il y a quelques jours, disait qu'on pense toujours en situation. Bon, et puis d'autre part, sans vouloir être pédant, le kairos de la philosophie grecque ou la fortuna de Machiavel, c'est-à-dire la situation dans ce qu'elle a d'imprévu, si vous voulez, hein, dans ce qu'elle a d'imprévu, dans ce qu'elle a de surprenant, et du même coup, évidemment, de contraignant. Bon, alors une fois de plus. Je vais citer Althusser. Véritablement, il nous aura accompagnés, pour ne pas dire obsédés, pendant toutes ces conversations, mais ça n'a rien d'étonnant. Bon. Il lui arrivait fréquemment, il n'est pas le seul d'ailleurs, de citer une formule qu'on attribue à Napoléon et qui est reprise aussi par Clausewitz, et qui est « on s'avance et puis on voit ». Alors évidemment, dans leur esprit, ça désignait la situation d'un général sur un champ de bataille. Bon, aussi longtemps qu'on n'est pas entré sur le champ de bataille, au contact des forces adverses et du terrain, et bon, en réalité, on ne sait pas dans quelle situation on est. Bon, la seule façon possible de savoir dans quelle situation on est, par conséquent, quel genre de moyens il faut mettre en œuvre pour essayer de la comprendre ou d'y intervenir, c'est d'être déjà dedans, d'une certaine façon. Ça fait aussi penser à des formules comme celle de Deleuze qui explique qu'on ne peut pas vouloir se libérer, mais il faut être déjà libre pour pouvoir entreprendre de se libérer, d'une certaine façon. Bon, alors, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que les conjonctures soient très limitées, très locales, strictement politiques, soit au contraire, beaucoup plus général, les problèmes de civilisation, les grands tournants historiques sont fondamentalement inintelligibles, ou en tout cas opaques et largement inconnaissables, aussi longtemps qu'on ne s'y est pas impliqué pour essayer d'y intervenir à la fois par la pensée et dans toute la mesure du possible par l'action ou en tout cas par la participation.
Bon. Vous avez fait les deux, Étienne Balibar.
J'ai essayé de faire les deux, mais tout le monde le fait. Ce qui m'a beaucoup. Bon, alors pour compléter la formule, je disais aussi dans le texte auquel vous faites allusion que la forme spécifique sous laquelle les philosophes, qui sont toujours, à mes yeux, des écrivains, même si ce sont des écrivains d'un style particulier, on pourrait dire, bon, ont pour instrument qui permettent de comprendre ce qu'est la conjoncture historique dans laquelle ils se trouvent et comment la penser, précisément d'écrire sur cette conjoncture, écrire à la fois sur la conjoncture et dans la conjoncture, mais éventuellement par toutes sortes d'autres détours, ce qui veut dire que les philosophes ne sont pas des gens qui ont un système dans la tête, même quand ils croient en avoir un ou quand ils font de grands efforts pour en avoir un, et qui ensuite l'appliquent pour nous enseigner ce que nous vont faire et ce que nous devons penser. En réalité, ce sont des gens qui mettent leurs hypothèses à l'épreuve de la situation sans connaître par avance, dans tous ces détails en tout cas, l'effet que produira sur eux-mêmes et sur d'autres leur propre écriture. Et évidemment, quand j'ai lu des philosophes très divers, parce que justement j'avais une formation classique que j'essayais de compléter peu à peu, alors ça vaut aussi bien pour Descartes ou même pour Aristote, Aristote que pour Hegel ou pour Marx ou pour Spinoza, je me suis peu à peu convaincu qu'un philosophe n'écrivait jamais deux fois de suite le même livre, même quand il a une pensée très systématique, parce que le fait même d'écrire au contact d'une certaine conjoncture, qui peut être métaphysique ou morale, produit une sorte d'effet en retour qui oblige à se déplacer.
Alors, quelle ligne vous avez, vous, Étienne Balibar, dans votre parcours, si justement on est aussi, le philosophe est à ce point-là influençable, influencé, et peut-être pour le meilleur, par les conjonctures? Est-ce qu'il y a un axe qui ressort dans vos travaux? Je pense notamment aux années 90, où là, oui, pour le coup, vous vous êtes engagé en faveur des sans-papiers, vous avez continué à le faire par la suite. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça a mis en avant dans votre travail, qu'on retrouve quand même
oui,
dans
alors,
d'autres textes.
D'abord, je me suis engagé auprès des sans-papiers, c'est vrai, j'ai participé à des mouvements, j'ai signé des textes, j'ai pas fait de grève de la faim comme mon ami Emmanuel Terret avec des groupes de sans-papiers, mais je suis allé...
Vous êtes allé soutenir les sans-papiers de Saint-Bernard,
bien sûr,
qui avaient été exclus de
l'église. Oui, non, j'étais pas à Saint-Bernard, non, il faut pas croire ça, j'étais pas à Saint-Bernard au moment où ça a eu lieu, mais comme j'ai écrit un an après un petit texte qui a été repris ici et là, dans lequel j'essayais de dire ce que, à mon avis, nous, en tant que citoyens français, plus généralement citoyens du monde, nous devions aux sans-papiers. Évidemment, du coup, il y a un lien direct avec l'affaire de Saint-Bernard. Bon, non, la question des sans-papiers est une question morale, c'est une question politique. Elle débouche aujourd'hui sur le problème plus général des réfugiés et des migrants, qui est un des grands problèmes politiques du jour. C'est-à-dire que je pense effectivement que ce qui se joue à travers cette question, c'est non seulement leur propre sort et notre propre capacité de surmonter un certain type, disons, de nationalisme ou de xénophobie ou d'étroitesse identitaire. Mais c'est plus généralement la question de savoir qui fait de la politique et quelle politique on fera dans le monde de demain où les frontières et les territoires ne peuvent plus avoir exactement la même signification qu'au 19e ou au 20e siècle. Bon. Seulement, autour de ça, se greffent des questions théoriques ou philosophiques, bon, qui sont des questions très concrètes dans leur application et très spéculatives, on pourrait dire, dans leur formulation. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de tenir les deux choses à la fois.
Bon. Alors comment avez-vous fait, vous, Étienne Balibar, pour tenter
Je suis parti, je ne saurais pas et je ne souhaiterais pas d'ailleurs essayer de reconstruire un cheminement linéaire. Mais je suis parti d'une question justement qui était à la fois très, très concrète et très chargée d'implications théoriques, qui était la question de la citoyenneté ou la question de savoir qui est citoyen ou qu'est-ce qu'être citoyen. Bon. C'est d'ailleurs le moment où je me suis mis à lire des auteurs que j'avais peu pratiqués dans la période antérieure, ce qui ne voulait pas dire que j'abandonnais les anciens, qui sont les philosophes de la cité ou de la citoyenneté depuis Aristote jusqu'à Hannah Arendt. Bon. Et évidemment, tout ça a beaucoup changé l'arsenal philosophique dont je me servais pour penser. Mais là, la question la plus abstraite qui est au cœur de tout ça, c'est la question de savoir quel rapport il y a entre la citoyenneté, l'exercice des droits, le pouvoir collectif de déterminer son propre sort, si vous voulez, et puis d'autre part la formation d'une communauté. Bon, alors j'ai eu très vite le sentiment, qui a été conforté par différentes lectures et analyses que j'ai faites, qu'il y avait une sorte de grande tension, à la fois productive, on pourrait dire, bon, mais en même temps très conflictuelle et à la limite insoluble, entre la dimension de la communauté et la dimension de l'universalité. Bon. Alors évidemment, on peut montrer ça à travers l'histoire et on peut essayer de comprendre en quel sens c'est plus que jamais le problème aujourd'hui. Bon, parler de citoyenneté, c'est supposer évidemment que des individus aient des droits et les exercent ensemble. On appelle ça la souveraineté ou on appelle ça le pouvoir du peuple, on appelle ça la démocratie. Ça, c'est des concepts étroitement liés entre eux depuis les origines de la philosophie politique. Mais d'autre part, c'est de poser la question de savoir quel est le cadre institutionnel à l'intérieur duquel ces droits sont garantis ou même conquis, plutôt, je préfère dire les choses de cette façon, ou à l'intérieur desquels les individus individus se confèrent les uns les autres les droits qu'ils exercent et les augmentent. Bon, d'où évidemment la dimension de réciprocité qui est très profondément ancrée dans l'idée de citoyenneté. Et à ce moment-là, on débouche sur le problème de la communauté des citoyens. Il y a d'ailleurs des livres qui portent ce titre. Bon, et on comprend que la communauté des citoyens est incontournable, mais qu'elle n'est pas stable, ou qu'en tout cas dans sa définition, elle ne peut pas être fixée. Parce que d'un côté, s'il s'agit d'une communauté de citoyens, il n'y a pas de limite a priori, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui fait le citoyen, c'est justement la reconnaissance de certains droits et leur exercice actif. Bon, ça vaut à l'échelle du monde, mais ça vaut à l'échelle de n'importe quel territoire, d'une ville, d'une nation, d'un État. Et évidemment, ce qu'on constate, vous le savez très bien historiquement dans la pratique, c'est qu'il y a toujours des exclus. Bon, ceux que Jacques Rancière, que j'ai déjà cité plusieurs fois, appelle les sans-part. Bon, le problème est donc de savoir si on peut concevoir une communauté de citoyens qui ne comporterait pas d'exclusion. Et évidemment, l'idéal d'universalité, qui est très profondément inscrit dans la tradition de la citoyenneté républicaine ou démocratique, exige que d'une certaine façon, toutes les exclusions soient levées les unes après les autres. Ce qui d'ailleurs n'est possible que parce que ceux qui sont exclus revendiquent des droits égaux à ceux des autres, et c'est l'idéal de la citoyenneté démocratique. Bon. Donc ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les ouvriers, ça vaut pour les étrangers. Il y a des problèmes très compliqués. Les mineurs, par exemple, c'est une des questions auxquelles qui me semble les plus difficiles à réfléchir et à résoudre. Bon. Et puis, d'un autre côté, évidemment, il y a des définitions institutionnelles qui sont redoublées par la formation d'une identité collective et qui ramènent, par conséquent, quand la communauté des citoyens a un groupe, on est presque tenté de dire à une substance, bon, qui par définition est fermée. Bon. Alors, il y a des moments où la tension travaille plutôt dans le sens de l'ouverture et de l'universalisation. Il y a des moments qui sont pas seulement les moments de crise d'ailleurs, bon, qui sont liés aussi à la formation des États, au développement du nationalisme, dans lesquels la tension travaille au contraire dans le sens de la fermeture et de l'exclusion. Bon, je ne sais pas s'il y a un progrès. On peut penser que l'idée des droits de l'homme telle qu'elle avait été énoncée au moment des grandes révolutions,
sur lesquelles vous avez vous avez travaillé, Étienne Balibar,
bon, va dans le sens du progrès, mais en fait on sait bien que l'histoire est faite aussi de régression. Bon. Et alors, la question autour de laquelle, effectivement, au départ, au moins, les choses s'étaient cristallisées pour moi, c'était, on pourrait dire, la déconstruction de l'équivalence entre l'idée de la citoyenneté et l'idée de la nationalité. C'est de comprendre pourquoi ces deux notions, historiquement, en sont venues à passer pour synonyme ou pour interchangeable, et pourquoi dans le monde d'aujourd'hui ça peut plus fonctionner comme ça.
Étienne Balibar, on voit que vous travaillez sur des concepts plutôt traditionnels dans la philosophie politique, de Aristote jusqu'à Hannah Arendt, mais par exemple la citoyenneté, vous la travaillez de manière très ouverte, c'est-à-dire que vous n'allez pas donner une définition stable et rigide et fermée à la citoyenneté. Ça fait d'ailleurs peut-être partie d'une des spécificités de votre travail, Étienne Balibar, que de ne jamais donner de définition claire, mais c'est peut-être aussi l'envers
c'est féroce.
De votre écriture. C'est-à-dire une sorte d'ouverture qui empêche de saisir votre pensée parfois.
Oui, non, mais c'est féroce de dire que je ne donne jamais de définition claire, mais enfin, puisque vous le dites...
Je veux dire par là que vous le revendiquez, c'est-à-dire aussi... Vous revendiquez la dimension aporétique de vos textes pour éviter d'être enfermé vous-même.
C'est vrai, mais j'essaie de prendre... J'ai même le souvenir de circonstances quelquefois drôles dans lesquelles des interlocuteurs pour lesquels j'ai le plus grand respect ont fini par se vacher en me disant « Écoute, il y en a marre, il faut toujours que tu trouves des apories, que tu expliques que le problème est insoluble. Nous, on voudrait bien quand même définir les notions, on voudrait bien quand même des solutions. » Oui, bon. Mais que voulez-vous, le monde dans lequel nous vivons, et l'interaction comme ça entre l'écriture philosophique et la conjoncture historique dans laquelle nous nous trouvons, qui est un tournant de civilisation quand même, qu'on le veuille ou non, on appelle ça mondialisation ou autrement, ne permet pas d'apporter des réponses simples ou de donner des définitions né variétur, si vous voulez, pour des notions que je persiste à croire fondamentales comme celle de citoyenneté. Bon, c'est pour ça que Arendt est un auteur très intéressant, parce que Arendt, dans la partie centrale des origines du totalitarisme, celle qui avait été complètement censurée dans l'édition française, qui a été éditée aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que le volume a été recomposé, mais pendant 15 ans, on n'a pas disposé du volet central qui s'appelle l'impérialisme, où figure le célèbre chapitre sur la crise de l'État-nation et la formule aujourd'hui très célèbre qui définit la citoyenneté en termes de droit au droit ou d'accès au droit. Bon, alors dans l'esprit d'Arendt, ça voulait dire il faut faire partie d'une communauté politique, c'est-à-dire qu'il faut de l'institution sans laquelle en réalité il n'y a pas de droit. C'était une façon de prendre acte, si vous voulez, des conséquences perverses au fond de la notion des droits de l'homme telle qu'elle avait été utilisée par toute la tradition bourgeoise, disons, du 19e siècle. Bon, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de faire un pas au-delà de la façon dont Arendt traite le problème, mais d'ailleurs dans la lignée sur la trace de sa très profonde réflexion sur le problème des sans-États créés par les guerres du 20e siècle. Bon, c'est-à-dire se poser la question, si vous voulez, de la communauté des citoyens à venir, hein, c'est-à-dire du type de communauté de citoyens qu'il faut construire pour que la notion de citoyen qui est de citoyenneté, qui a déjà traversé plusieurs phases dans sa très longue histoire, celle de la cité grecque, celle des villes-États, de la Renaissance italienne, celle des États-nations progressivement démocratisées de l'Europe de l'Ouest, celle des libérations nationales dans les pays du tiers-monde, ne se trouve pas bloquée, mais se relance elle-même, on pourrait dire, dans la voie, dans la direction d'une nouvelle époque de son histoire. Bon, alors évidemment, si on pense que la politique c'est fini, si on croit à la fin de la politique, on se fiche pas mal de la forme. Oui, moi je crois de façon raisonnée, évidemment, je crois à la nécessité pour la politique de se réinventer, et je pense que la possibilité de redéfinir et en ce sens d'universaliser l'idée de la communauté des citoyens en est un aspect fondamental, pas le seul mais fondamental, et c'est pourquoi évidemment j'écris des textes aporétiques, parce que je prends aporie au sens étymologique qui était aussi celui que les philosophes grecs lui donnaient, ouverture d'un problème dont la solution n'est pas encore accessible mais à laquelle on travaille bien sûr.
En témoigne aussi votre style, Étienne Balibar. Vous avez une manière d'écrire où vous accolez des termes, vous fonctionnez, par exemple, je pense à ce terme d'égal-liberté, la proposition d'égal-liberté que vous avez proposée en 89, qui est donc une sorte de mot-valise que vous définissez à la fois comme quelque chose de possible et d'impossible. Il y a aussi le sujet citoyen, le devenir sujet du citoyen, le devenir citoyen du sujet, fermeture, insurrection. Vous accumulez comme ça des termes.
Oui,
qui...
mais je suis pas le seul. Je pense que le travail philosophique consiste évidemment à Deleuze disait, c'est une très belle définition, évidemment, c'est difficile d'être à la hauteur, mais Deleuze disait le philosophe est un créateur de concepts. Alors, c'était la dimension artistique au sens large du terme qu'il voyait dans l'activité philosophique. Ça veut dire le philosophe n'est pas simplement quelqu'un qui argumente, hein, ce que penseraient des philosophes de la tradition analytique. C'est pas simplement quelqu'un qui réfléchit au sens de l'approfondissement, si vous voulez, du sens des notions dont il se sert, enfin une sorte d'analyse des sens comme le fait la tradition philosophique, mais c'est quelqu'un qui invente ou qui essaie d'inventer des concepts, c'est-à-dire des idées théoriques. Bon, alors ce que je pense, et je ne crois pas dire là quelque chose de tout à fait imprévu, hein, bon, c'est que on n'invente pas de concepts, même si ils sont provisoires, si vous voulez, si on ne travaille pas le langage. Bon. Alors tous les philosophes ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris des mots qui existaient dans le langage courant ou dans la tradition philosophique elle-même, et ils ont essayé de leur conférer un sens nouveau ou un usage nouveau. Bon. Et puis alors, il y a les philosophes qui modifient les mots, qui font un peu violence à la langue, si vous voulez. Bon, par exemple, quand Derrida, dans une conférence célèbre, dit « je vais parler d'une lettre qui ne s'entend pas, mais qui s'écrit, la lettre A, parce que j'écris maintenant différence avec un A et pas avec un E, ce qui, du même coup, apporte au premier plan tout l'ensemble des significations de l'idée de différer, pris dans un sens actif, retarder, déplacer, mettre en attente, ouvrir aussi justement vers l'avenir. C'est la même idée que tout à l'heure. Il commence à comme l'ont fait, je pense, tous les philosophes, mais de façon tout à fait délibérée, à pratiquer ce type d'opération sur le langage sans lequel il n'y a pas d'invention. Bon, alors, à mon échelle modeste, si vous voulez, ou à ma façon, bon, j'ai essayé de faire ça aussi parce que j'en avais besoin, naturellement. Bon, alors, l'égal liberté est un bon exemple. C'est devenu le titre d'un livre, et puis il y a aujourd'hui des gens qui s'en servent ou qui, en tout cas, le discutent. Bon, c'était pas une invention ex nihilo. Il y avait dans la tradition du droit et de la philosophie politique une expression equa libertas, égale liberté, qui venait de Cicéron et qui, de façon très intéressante, ressortait dans certains travaux très influents de la philosophie politique contemporaine, en particulier chez Rawls.
Hein, bon, John Rawls.
L'usage que Rawls en fait consiste, au fond, à revenir en arrière tout de suite, après avoir expliqué que le cœur, le principe central de la démocratie, c'est la conjonction de l'égalité et de la liberté. Il entreprend immédiatement d'expliquer que la liberté, c'est plus important que l'égalité. Bon, parce qu'il est sensible au fait qu'il vient des discussions, évidemment, du XXe siècle autour du socialisme et du libéralisme, qu'il y a une très forte tension entre les deux notions. Bon, et alors, pour des raisons qui seraient longues d'expliquer, mais qui ne sont pas très mystérieuses, dans la conjoncture, justement, d'après 1989, date étonnante, puisque c'était à la fois le bicentenaire de la Révolution française et le moment où se produisaient à l'est de l'Europe ces révolutions démocratiques qui ont jeté à bas le socialisme dans sa forme totalitaire, je n'hésite pas à l'appeler comme ça, ou en tout cas autoritaire. Bon. Donc cette conjonction obligeait à repenser sur nouveaux frais le rapport conflictuel du principe de liberté et du principe d'égalité. Et moi, je pensais, et je pense plus que jamais, que non seulement on ne peut pas choisir, mais qu'on doit les placer sur un pied d'égalité.
On doit vouloir les deux, on doit défendre
les
deux.
Oui, on doit vouloir les deux en sachant très bien que les deux ne vont pas ensemble facilement. Mais j'ai proposé un argument, alors là c'était un peu de style un peu plus analytique, dont j'attends encore la réfutation, je dois dire, bon, qui était lui-même une réfutation, qui consistait à soutenir qu'il n'y a pas d'exemple historique de réalisation authentique de la liberté au détriment de l'égalité, ou de réalisation authentique de l'égalité au détriment de la liberté. Et je crois que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui illustre cette double impasse, si vous voulez, de façon flagrante et même quelquefois violente. Bon, donc j'ai essayé d'exprimer cette idée au moyen d'un artifice d'écriture. Et pendant quelques années, j'ai mis ça dans un coin en pensant que c'était pas une mauvaise idée, mais que ça servait pas à grand chose. Et puis finalement, d'autres m'ont dit non, c'est assez éclairant.
Étienne Balibar, vous êtes aussi un homme de parole. Vous avez écrit énormément de textes, mais c'est aussi beaucoup de textes qui ont été qui sont des interventions qui ont été dites, qui ont en tout cas la vocation d'être entendu par un plus large public parfois que par celui des simples lecteurs, de philosophes. Vous écrivez aussi dans la presse. À qui vous adressez-vous, Étienne Balibar?
À ceux qui veulent. Non, mais comment dire les choses? Au début de ces conversations, j'ai cité Canguilhem et j'ai dit « j'ai fait mon métier ». Bon, je tiens beaucoup à avoir été un professeur, et à l'être toujours d'ailleurs dans une certaine mesure. Bon, donc le premier public auquel je me suis adressé, auquel je continue de m'adresser, et dont j'apprends énormément, sans lequel en réalité je ne ferais rien, c'est un public d'étudiants et de façon plus large de collègues. Mais évidemment, la conception que j'ai et de la philosophie et de l'université n'est pas celle d'un lieu fermé, d'une sorte d'abbaye de Thélème, si vous voulez, dans lequel on se renferme pour penser à l'écart du monde extérieur. Bon.
Oui, pour vous, le philosophe est dans la cité.
Il y a une tradition qui n'est pas seulement française, je pense, qui s'est universalisée d'intervention du philosophe sur les frontières, une autre façon de poser le problème des frontières, entre plusieurs espaces dont l'ensemble constitue justement la cité. Bon. Donc, je pense qu'il faut que l'université soit un lieu ouvert sur l'extérieur, au risque d'importer en son sein, bien entendu, les conflits et les tensions qui sont ceux de la vie. Hein, bon. Et il faut que la cité est un usage, soyons modestes, hein, est un usage effectif des produits du savoir universitaire, mais ça, qu'il ne soit pas simplement de l'ordre de la publicité ou de la communication.
Mais vous, Étienne Malibar, vous êtes philosophe, vous l'avez dit, philosophe de profession. Quand on lit vos textes, ils s'adressent finalement, vous avez vocation justement à être entendu par par...
Bah écoutez, ça dépend lesquels.
Quand transformer les choses et que ça touche un maximum de personnes.
J'aimerais bien que vous ayez raison. Ça dépend lesquels.
Quand vous parlez d'égalité, c'est bien le cas, ou même quand vous pointez les inégalités
entre
hommes et femmes.
Oui, virtuellement, mais naturellement, les problèmes dont j'essaie de traiter, surtout ceux dont on vient de parler, ceux qui relèvent de la philosophie politique, sont de ceux qui normalement doivent pouvoir être partagés dans un espace plus large que celui des spécialistes de philosophie. Oui, d'une certaine façon, j'aime la spécialisation, mais je n'aime pas l'attitude de spécialiste, c'est vrai. Bon. Seulement, dans la pratique, on se rend compte que c'est plus facile à dire qu'à pratiquer. Vous êtes très, très gentil. Tout à l'heure, je vous ai accusé de me rentrer dans le chou, mais vous êtes très gentil de dire que mes livres s'adressent à un large public par leur sujet le plus souvent possible, mais par leur style, malheureusement, pas toujours. Bon. Des gens qui me sont extrêmement proches m'ont dit un jour, après que j'avais publié le recueil qui s'appelle « Citoyen sujet », dont le titre en effet semble promettre quelque chose qui concerne tout le monde, mais qui est fait de commentaires, de textes, Descartes, Hegel, dont c'est, oui, heureusement il y a un peu de littérature.
Mais vos livres sont souvent d'ailleurs des recueils de textes.
C'est souvent des gros recueils de textes, oui, c'est souvent des gros recueils de textes. Donc cette personne dont je vous parle m'a dit « Quand est-ce que tu cesseras d'écrire simplement pour 40 agrégés de philosophie en France ?» Alors là, évidemment, j'ai reçu un terrible coup de bâton sur la tête. Bon. Mais il m'est arrivé, de temps en temps, justement sous l'impact des circonstances, à la fois parce que je sentais une certaine urgence et parce que j'étais invité par d'autres à sortir de mon cocon, on pourrait dire, ou de mon milieu spécialisé, de tenir des discours dont j'espère qu'ils sont plus largement lisibles. Par exemple, à la fin du recueil « La proposition de l'égalité », il y a une conférence qui s'appelle « Résistance, insurrection, insoumission » que j'étais allé faire à la demande du Festival d'Avignon dans la cour du Palais des Papes. Bon, c'était pour un public un peu plus large que celui des philosophes professionnels, et pourtant je faisais de la philosophie.
Merci beaucoup Étienne Balibar, à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Géraldine Mosna-Savoie avec Étienne Balibar. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.